Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La Tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour, c'est BNP Paribas Banque Privée. Pour rappel, aujourd'hui, 25% des startups échouent dès les deux premières années de leur existence et c'est jusqu'à 50% au bout de 5 ans. Et justement, BNP Paribas Banque Privée a lancé plusieurs initiatives afin de les aider à consolider leur réseau et à adopter dès le début les meilleurs choix patrimoniaux. Le groupe BNP Paribas accompagne aujourd'hui un tiers des PME et deux tiers des ETI françaises, mais aussi 85% du Next 40 et 78% de la French Tech 120. Vous pouvez demander un rendez-vous avec un banquier privé sur leur site internet, rubrique « Prendre rendez-vous ». N'hésitez pas également à les suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram @partnerinbusiness, tout attaché. Encore merci à BNP Paribas Banque Privée de nous faire confiance et de nous permettre de vous proposer ce podcast. Bonne écoute à tous. C'est quoi que vous avez remarqué depuis 2018? On va prendre un par un. La première chose, levée de fonds, évidemment, et renta, je pense qu'on va parler. Mais surtout les techs, le genre de boîte qui sort, est-ce qu'on est vraiment sur de la deep tech avec... je pense qu'on parlait pas de rentabilité, mais même faire ses premiers euros à plus de 3 ans, ou est-ce que là, on est vraiment dans des trucs où les gens vont vraiment essayer leur produit avant même de le mettre sur le marché, et peut-être plus dans du concret, quoi.
Il y a plein de choses qu'on peut... Enfin, je sais même pas par quoi commencer. Quand on a commencé Station F, enfin, déjà, on n'était même pas sûr que le bâtiment soit rempli. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'entrepreneurs que ce qu'on imaginait. Je pense, juste en termes de levée de fonds, je pense, les premières années de Station F, on comptait peut-être 300 millions sur une année. Et l'année dernière, on a dépassé 1 milliard juste sur les boîtes de Station F. Là, on commence à avoir des tendances. Enfin, j'ai l'impression que la France, en termes de crédibilité... est vraiment très bien positionné. C'est peut-être le leader maintenant un peu incontesté au moins sur l'IA et quelques
en
sujets.
Europe.
Ouais, en Europe.
Ah, on a quand même une grosse place.
Ouais, j'ai l'impression, surtout cette année.
Ok.
Bon, je te laisse peut-être compléter.
Non, mais t'as raison. Et on a peut-être un peu l'impression de se dire, ah, la French Tech forcément est formidable sur l'IA parce qu'on a ce prisme cocorico. Mais moi, j'ai pas mal demandé, notamment au moment de Slush, qui est un gros événement startup qui se passe en Finlande tous les ans. Et j'ai demandé à pas mal de VC, donc britanniques et américains, et ils te disent si, c'est vrai.
Hyper sexy.
Ouais. Ah, surtout en IA, ils disent on est passé devant Londres, voilà, donc c'est pas...
On l'explique comment, ça, juste, je sais qu'il y a des grosses boîtes, des Hugging Face, des Mistral qui portent l'étendard de la France, mais c'est quoi, c'est le Qtie aussi, je crois qu'il y a toi qui as rencontré le CEO de... C'est quoi, c'est Google qui
De Google, créé, tout à fait, Sundar, on l'appelle.
Voilà, on l'appelle comme
son prénom,
ça.
Voilà.
Ah, je me souviens, tu nous as envoyé un mail ce jour-là. Raconte un petit peu, ouais. Est-ce que c'est tous ces trucs-là
ouais.
Est-ce qu'on revient enfin au truc de... Ah, on a des super ingénieurs en France, et ben ils restent en France et ils créent de la valeur en France.
Oui, t'as le fait qu'il y a pas mal, donc il y a eu des GAFA qui ont créé leur laboratoire d'intelligence artificielle, donc comme Facebook, ce qui fait que t'as beaucoup de talents qui étaient peut-être partis aux États-Unis. Je pense notamment à Alexandre Lebrun, qui est venu vraiment à l'initiative de ce laboratoire d'IA de Facebook, qui avait revendu sa boîte aux États-Unis, qui était resté là-bas, finalement qui revient. Et je pense qu'il y en a plein qui ont fait la même chose et ça a commencé à créer tout un écosystème. Pareil que pour Google, tu as un gros centre de R&D à Paris, qui fait que ça a concentré pas mal les talents et qu'au bout d'un moment, bah maintenant, c'est aussi un peu plus sexy créer sa start-up qui a peut-être 10 ans. Donc, tous ces talents ont peut-être eu envie de créer. Je pense qu'il y a cet effet-là.
Tu le vois, toi, des boîtes qui rentrent à Station F?
Complètement. Je pense qu'il y a à la fois ça, mais je pense déjà qu'il y avait plein de Français déjà dans toutes ces boîtes. Donc, en fait, la France a toujours été hyper bien représentée chez les GAFA dans tout ce qui était data science. Donc j'ai l'impression qu'on était déjà présent. Aujourd'hui, l'écosystème est suffisamment sexy pour que les gens reviennent. Et l'entrepreneuriat est aussi suffisamment crédible comme métier pour que les gens lancent leur boîte. Donc de voir des chercheurs qui quittent leur boîte, ouais. Ça c'est quelque chose qu'on avait peut-être moins vu les années passées. Et cette année, j'ai l'impression avec Mistral, avec Holistic, enfin il y a plusieurs boîtes où on voit des chercheurs de très haut niveau qui disent en fait j'ai plus envie d'être chercheur, j'ai envie d'être entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment pour moi la nouveauté.
Et tu peux aussi plus facilement attirer des talents étrangers, notamment, pas pour leur faire la pub, mais le French Tech Visa. J'en ai encore vu qui m'ont dit, bah, c'est grâce à ça, ça a accéléré ma venue en France. Et des fois, il y en a qui se posent la question, je vais plutôt au Royaume-Uni, France, Allemagne. Et bah, grâce à ça, n'empêche qu'ils vont plus facilement aussi en France.
Bah, parlant de l'écosystème, 30 secondes, à part ça, on dit que la France est un Eldorado pour monter une boîte. Et je pense que vous qui êtes dans l'écosystème depuis un bout de temps, il y a tellement de choses que vous prenez pour acquis, mais déjà toutes les aides financières qu'on nous propose. Et en plus, vous avez voyagé, donc qu'est-ce qu'on a de mieux en France sur l'écosystème à ce niveau-là? Là, c'est vraiment pour attirer les gens qui nous écoutent à enfin se lancer, à leur dire qu'il n'y a aucune excuse, on est au meilleur endroit, au meilleur moment.
Il y a plus d'excuses en vrai. Enfin, toutes les infrastructures sont là. On vient de parler de talent, mais c'est pas que talent dans l'IA. En fait, il y a vraiment dans tous les secteurs, j'ai l'impression, on a des très, très bons niveaux. Mmh. En infra, on a maintenant, tu vois, des sites comme Station F, mais pas que, parce que Station F, maintenant, je dis aux gens, c'est juste un tout petit pourcentage de ce qu'il y a dans l'écosystème. Mais en termes d'aide, tu l'as dit, je pense en vrai, il y a peut-être 5-10 ans, on bâchait un peu les aides publiques. En fait, c'est un moteur pour l'écosystème. Si on regarde, je pense que si on comparait avec les fonds les plus actifs, la BPI est largement au-dessus. Pôle emploi qui permet aussi à tout le monde de se relancer quand il quitte un emploi. Enfin, vraiment, je pense qu'on est dans une situation assez exceptionnelle.
Ouais, pas grand chose à rajouter en termes d'aide. Et puis non, moi, je le compare plus parce que moi, je vais aussi souvent en Afrique et c'est là que tu vois. Je pense que des fois, il faudrait que certains entrepreneurs aillent faire des petites learning expeditions là-bas parce que tu vois la difficulté, la résilience des entrepreneurs. Alors, je dis africains, c'est pas un pays, hein, évidemment, mais j'ai visité quand même pas mal de pays. Mais les situations sont à peu près les mêmes parce que tu as quand même des problèmes de stabilité, tu as des problèmes de monnaie, toutes les choses. C'est un peu basique, on n'y pense pas, mais c'est vrai que non, on a quand même beaucoup, beaucoup de chance. Voilà, et en plus de tout ce que Roxane a dit, quoi.
Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao !